Donc, c'est à partir du verset 1 à 25 dans la version Louis II, nouvelle édition de Genève. Donc, acte 24, 1 à 25. Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens et qui a même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il ne serait prouvé ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. »
Merci, Luigi. On va prendre un temps pour se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour. Comme on l'a chanté, Seigneur, ce matin, tu veux qu'on vienne devant toi pour t'adorer. Et c'est ce qu'on désire, Seigneur. Lorsqu'on chantait cette invitation, « Viens tel que tu es, adore. Viens tel que tu es devant ton Dieu. » Seigneur, je parlais moi-même à mon cœur et c'est ce que je veux pour moi et pour mes frères et sœurs ce matin, qu'on vienne devant toi pour reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Ce matin, Seigneur, on vient devant toi pour fléchir le genou devant toi, pour te dire combien nous t'aimons, combien nous t'adorons. Combien tu es glorieux aussi. Nous voulons voir le nom de Jésus élevé. Seigneur, on a besoin que tu puisses venir nous conduire ce matin dans l'enseignement de ta parole. Viens nous parler, Seigneur, à travers elle. Cette parole qui est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui nous sépare, qui juge les pensées du cœur et qui peut nous transformer, Seigneur. Viens nous sanctifier par ta parole ce matin. Utilise ton esprit en nous pour que nous puissions être concentrés et apprendre de ta volonté, Seigneur, pour nos vies. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta grâce sur nous ce matin. Bénis-nous ensemble et que ton nom soit célébré dans tout ce qu'on fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On me tasse un petit peu juste pour être un peu plus au centre. On est en 2003, au printemps 2003. J'étais en vacances avec Cynthia à ce moment-là. Ça faisait à peine un an qu'on était mariés. On était en vacances dans le un petit peu au nord, proche de Saint-Michel-des-Saints, dans Lanaudière. Et on était un bel après-midi sur une route de campagne à se promener dans ma Mazda Protégée 99, à se promener sur les belles routes sinueuses du Québec. Et on se baladait et on allait peut-être un peu plus vite qu'était supposé. Et soudain, un de mes grands amis qui travaille pour la Sûreté du Québec me croise en sens inverse. Je baisse ma fenêtre, j'ai envoyé la main. « Hey, salut! » Non, pas en tout. Je fais comme tout le monde fait quand il voit un auto de police en train de faire du radar sur l'autoroute. Ouf! On lâche un petit peu à pédale. On regarde le tableau de bord. T'es mal pris, là. 117 dans une zone de 90. Ouf! Je suis rendu un peu plus sage aujourd'hui. Ça fait déjà quelques années, une dizaine d'années de ça. J'ai appris à mes dépens. Mais lâche le pied, regarde le tableau de bord. Ça y est, j'espère qu'il ne faisait pas du radar en roulant. T'sais. Je regarde le rétroviseur, je le vois ralentir, tourner de bord. Oh! Et là, dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Mais la première chose qui me vient à l'idée, je suis coupable, je dois payer une contravention. Non. Première chose qui me vient à l'idée, c'est, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je vais essayer de me défendre. Tu sais, s'il s'en vient me chercher, je vais me défendre quand même. 117, c'est pas si pire que ça, là. Pour un jeune de 25 ans, 117, c'est pas vite. Mais... Comme je vous dis, je me suis assagi à ne pas suivre comme exemple, OK? Je le dis tout de suite. Je vais me défendre. Je vais défendre ma cause. Je ne suis pas si pire que ça. Ou peut-être même, j'ai même entendu un de mes collègues à l'université, lui, il avait baisé, puis il s'était sauvé. Puis, toutes les idées possibles pour éviter la contravention me passer à travers la tête. Et puis, je regarde dans mon rétroviseur, comme de fait, il ralentit, je le vois retourner de bord, et puis, les lumières allument. Et là, toutes les idées, sauf, je respectais pas la loi, et je suis coupable, et je vais subir la condamnation. Toutes ces idées, sauf celle-là, me passent à travers la tête. Je pourrais donner d'autres exemples, pas nécessairement en lien avec la vitesse, en lien avec la conduite automobile, mais en réfléchissant à ça, ça me faisait penser à quelque chose. C'est pas évident pour nous, comme êtres humains, d'être soumis à des lois, des règles et des autorités. On vit dans un monde qui est organisé avec des gens qui sont en autorité, qui établissent des règles, des lois auxquelles on doit être soumis. Le Seigneur a placé sur nous, premièrement, des parents lorsqu'on est venu au monde, qui exercent une certaine autorité sur nous jusqu'à un certain âge. Des gouvernements, des professeurs, des directeurs d'école. Et puis, j'ai fait face à quelques-unes de ces autorités-là. Premièrement, mes parents, évidemment. Mais le Seigneur a placé dans ce monde une organisation où l'autorité existe. Et l'être humain étant ce qu'il est, c'est pas facile pour l'être humain de se soumettre à l'autorité. On veut notre liberté. On veut faire ce qu'on veut. On veut rouler à 140 sur l'autoroute. Non? Non? Quand t'es jeune, oui. Il y en a qui a levé la main, je l'ai vu, là. Comme ça, hein? Ça nous tente, des fois, c'est tranquille, il n'y a personne. Tu sais, là, juste pour tester l'auto un peu. Là. Ça, c'est les gars, hein, peut-être. Les femmes, peut-être, vous avez d'autres choses. Mais on a toute cette envie-là, à certains moments donnés, de ne pas être soumis aux règles. Pas très longtemps après le commencement, l'homme et la femme que Dieu avait créés ont déjà manifesté leur désir de ne pas être soumis à une autorité, à des règles. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est tous affectés avec ce problème-là. La nature pécheresse, cette nature qui nous pousse à rejeter l'autorité et à vivre selon nos propres désirs. À travers cette étude du livre des Actes, on veut aborder, dans les prédications qu'on a déjà commencé, aborder certains thèmes. Et un des thèmes qui revient beaucoup dans le livre des Actes, c'est la relation entre le chrétien et l'autorité. Dans le livre des Actes, on voit souvent les apôtres qui ont à faire face à l'autorité, parfois et souvent injustement, et on regarde leur attitude face à l'autorité et on a tiré des exemples de leur vie, parce que quand je regarde ma vie, je n'ai pas tendance à vouloir agir comme les apôtres et les disciples de Christ dans le livre des Actes. Et en lisant le livre des Actes, on constate que les disciples étaient souvent mis devant les autorités juives, qui étaient les initiateurs de fausses accusations à l'égard des disciples en raison de la proclamation de l'Évangile, qui, eux, cherchaient à être soumis à la loi de l'Ancien Testament. Lorsqu'un un nouveau message arrive et le Messie vient, les autorités juives n'acceptent pas ça et fait en sorte que, dans le fond, les disciples de Christ sont soumis à leur persécution et à leur injustice parfois par des fausses accusations. Mais après, dans le chapitre 24, comme on vient de lire, justement une fausse accusation où Paul vient pour se défendre devant Félix. Et il y a un verset clé, vraiment clé. Puis je dirais probablement un des versets clés dans le livre des Actes qui aide à comprendre comment le chrétien devrait se comporter devant les autorités. Et on le trouve au verset 16, où Paul dit dans sa défense, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Tout au long du livre des Actes, on voit que le but ultime des apôtres était de la proclamation. Ils poursuivaient ce but ultime, la proclamation de l'Évangile, et même auprès des autorités. Et dans la vie de Paul et des autres disciples, on apprend comment on doit vivre, nous aussi, dans la proclamation de l'Évangile, dans nos relations avec les autorités. Et surtout, comme eux voulaient le faire, si on veut gagner à Jésus-Christ les hommes et les femmes qui sont en position d'autorité. Et une des choses qu'on a à retenir ce matin, c'est que si on veut refléter Christ et gagner les hommes et femmes en position d'autorité à l'Évangile, c'est qu'on doit s'efforcer, nous aussi, à être trouvés sans reproche devant Dieu et devant les hommes, afin de conduire les hommes à être sans reproche devant Dieu. Nous devons nous efforcer à être trouvés sans reproche devant Dieu et devant les autorités, afin de conduire les hommes et les femmes à être sans reproche devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un sens, qu'est-ce qu'on apprend de Paul dans ce simple verset où il s'efforçait d'avoir constamment une conscience sans reproche? On apprend deux choses. C'est qu'on doit, premièrement, comme le disait l'énoncé, être sans reproche devant Dieu, être sans reproche devant les hommes, et finalement, tout ça contribue à un but qui est de conduire les hommes à être sans reproche devant Dieu. Et donc, on va décortiquer tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir être sans reproche devant Dieu? Et c'est une des premières choses qu'on voit dans le passage que Paul s'efforçait de faire, être trouvé sans reproche devant le Dieu souverain. Pourquoi est-ce qu'on devrait poursuivre cela? Pourquoi est-ce qu'on devrait poursuivre, comme Paul, d'être trouvé sans reproche devant Dieu? Comme je le disais tout à l'heure, on a été créés et Dieu a placé sur nous des autorités, mais on doit reconnaître que premièrement, l'autorité suprême, au-dessus de toute autorité, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est l'autorité suprême. C'est lui qui règne sur tout ce qui existe. Et Paul a déclaré, dans sa défense, va déclarer au verset 14 qu'il servait le Dieu de ses pères. Il dit, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Et donc, Paul, premièrement, croyait ce qui avait été révélé dans la loi et les prophètes, la loi et les prophètes étant l'Ancien Testament. Paul croyait tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui est écrit dans l'Ancien Testament sur Dieu? Bien, on apprend que Dieu est l'autorité sur tout ce qui existe. Premièrement, on voit que l'Ancien Testament commence avec Dieu. Dans Genèse 1:1, on voit au commencement Dieu. Avant que toute chose existe, Dieu était là. Dieu était déjà un être éternel, l'être suprême qui existait. Et dans la création, on voit que Dieu a l'autorité sur tout. Il fait juste prononcer des paroles et la chose existe. Il dit que la lumière soit et la lumière apparaît. Son autorité est révélée dans la création. Son autorité est révélée à tous les moments, à tous les jours de la création où Dieu dit « la chose arrive ». On le voit aussi ailleurs dans l'Ancien Testament, à travers des prodiges et des miracles que Dieu va opérer, qu'il est l'autorité suprême qui dirige toutes choses, à travers, entre autres, le déluge. Dieu a envoyé un déluge qui a couvert d'eau toute la terre. Et on voit à travers ça que Dieu avait le contrôle sur l'univers, sur tous les éléments atmosphériques qui ont fait en sorte qu'il y ait un déluge qui est tombé sur la terre. Et c'est un miracle en quelque sorte, c'est un prodige que Dieu a accompli. Les 10 plaies d'Égypte aussi, qui ont mené à la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu a manifesté sa puissance et son autorité sur tout ce qui existe, sur la nature et sur les hommes à travers ces 10 plaies-là. Et finalement, Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament comme étant le Dieu suprême à Israël par la loi de Moïse et les prophètes. Et entre autres, dans la loi, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, et ensuite de ça, dans les prophètes, il a manifesté qu'il était le Dieu suprême, l'autorité suprême sur tout ce qui existe. Dieu s'est révélé comme étant le seul Dieu qui existe. Fort probablement, et je suis convaincu, c'est une idée que les gens rejettent aujourd'hui dans notre culture. Dire et déclarer qu'il y a un seul Dieu, premièrement de dire qu'il existe, c'est pas très à la mode aujourd'hui. Et deuxièmement, de dire qu'il y en a juste un, encore moins. Si tu crois que Dieu existe, ben, il se révèle de plusieurs façons et on peut le connaître de plusieurs façons. Mais ce n'est pas la manière que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Et Paul croyait à un seul Dieu vrai. Dans Deutéronome 6, versets 4 et 5, on lit entre autres, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, le seul Dieu, le seul je suis qui existe éternellement. » Et ensuite de ça, il y a un commandement qui vient avec ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu va encore se révéler à travers les prophètes. Ça, c'était dans la loi, dans Deutéronome, où il dit « Je suis le seul éternel ». Mais dans Isaïe 46, 9, dans les prophètes, Dieu va dire « Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi ». Et aujourd'hui, de déclarer qu'il y a un seul Dieu, on comprend, c'est pas à la mode. Mais nous, comme chrétiens, lorsqu'on a saisi l'Évangile, lorsqu'on a compris la révélation de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on n'a pas le choix de déclarer, de reconnaître que l'autorité suprême sur tout ce qui existe, sur ma vie, c'est Dieu qui la possède. Et notre relation avec les autorités commence dans une relation avec Dieu, en reconnaissant que Dieu est l'autorité suprême. Dieu est le créateur de toutes choses et on doit reconnaître Dieu comme celui qui a autorité sur nos vies. Mais contrairement à ce que plusieurs peuvent croire, Dieu n'est pas une autorité méchante. On pourrait déclarer l'autorité de Dieu comme une monarchie ou une théocratie bienveillante. Dieu désire le bien de tous les hommes. Dieu a créé les hommes, l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, pour être en relation avec lui. Pas pour être séparés de lui et vivre des châtiments comme on voit dans l'Ancien Testament, parce que souvent les gens vont lire l'Ancien Testament et vont dire « c'est un Dieu méchant, c'est un Dieu vengeur ». Mais ce que Dieu désirait, c'est une relation. Dieu est un Dieu bon, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et ça, c'est le Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament. Un Dieu qui règne sur toutes choses, mais qui fait le bien, qui veut le bien de sa création. Et lorsqu'on parle d'autorité de plus en plus, on ne l'accepte pas cette autorité-là, mais lorsqu'on considère l'autorité, la manière que Dieu l'exerce, lorsqu'on est soumis à sa volonté, c'est là qu'on veut être. On veut être soumis à la volonté de Dieu parce que Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu est lent à la colère, et riche en bonté. C'est une autorité qui désire notre bien, une autorité qui veut nous combler de bénédictions éternelles. Lorsqu'on vient pour se soumettre à Dieu, c'est des bénédictions qui sont en réserve pour nous. Contrairement à la vision qu'on pourrait avoir, de dire, si je veux me soumettre à Dieu, je vais être comme dans un cadre restreint à des lois, puis je ne pourrai pas faire ce que je veux. Lorsqu'on se soumet par la grâce de Dieu à sa volonté, c'est le bien que Dieu veut pour nous. Et puisque Dieu est notre Créateur, le Créateur de toutes choses, il est souverain, c'est lui qui règne sur toutes choses, il est l'autorité suprême, et c'est lui qu'on doit honorer et adorer avec des cœurs entiers. Le Seigneur s'est révélé dans l'Ancien Testament comme étant le seul Dieu. Mais il s'est révélé aussi comme étant celui qui juge et qui rend justice à ceux qui pêchent et à ceux qui contreviennent à sa loi. Et le Seigneur est le juge aussi devant qui tous devront comparaître. Et pour ça, on a besoin de réaliser qui nous sommes. Nous sommes des gens qui ont refusé d'avoir l'autorité de Dieu dans notre vie. Et comme je l'ai exprimé un peu à travers mon expérience du refus de l'autorité sur la route, on l'a refusé de la même façon, nous aussi, l'autorité de Dieu. On est des êtres qui, dans notre nature, sont rebelles à Dieu et doivent subir justement le châtiment et la condamnation à cause de notre rébellion envers Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu désirait dès le départ. Malheureusement, la rébellion conduit au jugement. Et c'est ce que Paul va exprimer au verset 15, lorsqu'il dit qu'il a cru en le Dieu qui est révélé dans la loi et les prophètes, et en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Un jour, nous, les justes et les injustes, tous les êtres humains, aurons à comparaître devant l'autorité suprême et à faire face devant Dieu sur la manière dont nous aurons mené nos vies. Et c'est Jésus-Christ aussi qui est l'autorité suprême, que Dieu a établie pour être le juge de tous ceux qui ont vécu sur la terre. Dans Actes 10, les versets 36 à 42, on voit que Pierre va déclarer à Corneille que Jésus est Seigneur. Dans le verset 36, il va dire, il a envoyé, parlant de Dieu, il a envoyé aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Jésus-Christ, le Seigneur de tous. Ce Jésus qui a été crucifié a été fait Seigneur et Christ. Et en même temps, plus loin, qu'est-ce que Pierre va dire à Corneille au verset 42? Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus a reçu toute autorité lui aussi, en allant, parce qu'il est Dieu. Et à travers sa mort et sa résurrection, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans un sens que je veux apporter ici, c'est que de réaliser que Dieu est l'autorité suprême, ça a un impact sur nos vies. Et de réaliser nos cœurs devant Dieu, devant même ce premier commandement que Dieu a donné, de l'aimer de tout son cœur, on réalise que, pas tout le temps dans ma vie, que j'ai aimé Dieu de tout mon cœur. Mais Paul, il dit que c'est efforcer d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Comment pouvait-il avoir une conscience sans reproche devant Dieu, lui qui va même se déclarer comme le pire des pécheurs? Non seulement Dieu a fait Jésus Seigneur, mais il l'a fait Christ aussi. Celui qui est le oint, celui qui est venu pour apporter la paix. Et dans Acte 4, 12, on voit que Jésus est venu pour nous rendre sans reproche devant Dieu. Nous qui sommes des pécheurs perdus, éloignés de Dieu, Dieu l'a envoyé, ce Jésus-là, pour nous réconcilier avec Christ. Plutôt que moi, je subisse le jugement devant ce Dieu saint, il a envoyé Jésus pour subir le jugement à ma place. Dans Acte 4, 12, Pierre va déclarer, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu est l'autorité suprême qui donne des lois, mais lorsqu'on les transgresse, doit juger. Mais en même temps, lent à la colère, riche en bonté, il a donné son Fils pour venir prendre le châtiment à notre place. Et dans le nom de Jésus, on peut être sauvé du châtiment qui nous est réservé à cause de nos péchés. Jésus est le seul qui était réellement sans reproche. Paul s'est efforcé, il disait qu'il s'efforçait maintenant, à partir du moment où il s'est converti à Jésus-Christ, d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu. Mais avant, il n'était pas sans reproche. Il avait persécuté les églises, il avait tué même des chrétiens. Il n'était pas sans reproche devant Dieu. Mais un jour, il a reconnu que Jésus-Christ était celui qui avait tout accompli sur la croix, pour qu'il soit sans reproche devant Dieu. Et les apôtres ont annoncé cet évangile-là, cette bonne nouvelle-là. Dans le livre des Actes, on voit cet évangile est annoncé, cette bonne nouvelle est annoncée, que Jésus, qui juge des justes et des injustes, est celui qui peut rendre juste devant Dieu, et qu'on peut croire en lui pour recevoir son pardon. Lui qui a reçu la condamnation à notre place, maintenant par la foi en lui, on peut recevoir la justice que lui a accomplie puis être retrouvé sans reproche devant Dieu. Ça implique maintenant, lorsqu'on doit reconnaître Jésus comme le seul nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, on doit reconnaître Jésus-Christ comme l'autorité, celui qui va juger, mais en même temps celui qui est sauveur avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton seul sauveur, le seul Seigneur devant qui tu dois fléchir le genou? Jésus est venu apporter la grâce, il est venu apporter l'amour, la compassion, l'amour de Dieu pour que tu puisses être pardonné et être réconcilié avec Dieu. Et on doit reconnaître que Jésus est Seigneur, qu'il est le sauveur. Et par la foi en lui, on est pardonné, on évite la condamnation qui est réservée. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens depuis déjà un certain temps ou même récemment, ça implique quelque chose. Ça implique que maintenant on doit s'efforcer d'être sans reproche devant Dieu. Maintenant, j'ai été pardonné par Jésus-Christ et au jour du jugement, je sais que je serai sans reproche. Mais il y a une implication aussi de venir à Jésus-Christ, de le reconnaître comme Seigneur, ça veut dire je veux me soumettre à sa volonté et je veux accomplir sa volonté. Je veux obéir à cette autorité suprême que Dieu a mis dans ma vie. Et maintenant, en le reconnaissant comme l'autorité, je veux être trouvé sans reproche, en obéissant à son autorité, à ses lois, pour trouver le bonheur dans ma vie. C'est, comme je disais, Dieu est une autorité bienveillante et lorsqu'on se soumet à lui, il est bon pour nous. Ça me fait penser, le Seigneur m'a donné d'avoir l'autorité sur une famille, sur des enfants. Je ne veux pas le malheur de mes enfants. Je ne veux pas leur donner des punitions quand ils désobéissent. Ce n'est pas ça que je désire le plus. Ce que je désire le plus, c'est qu'ils soient obéissants et puis qu'on puisse avoir une relation harmonieuse à travers l'obéissance. Mais des fois, ça va arriver qu'ils vont manquer. Et puis, si je veux qu'ils grandissent et qu'ils apprennent à vivre selon les standards de Dieu, des fois, il va y avoir des punitions qui vont suivre. Mais ce n'est pas ça mon premier désir. Mon premier désir, c'est qu'on puisse vivre en harmonie, qu'on puisse vivre ensemble. Et Dieu m'a placé comme autorité sur leur vie pour un certain temps. Et puis, je veux exercer l'amour de Dieu, être un bon père pour eux comme Dieu est un bon père. Mais ça nous amène à réaliser que Dieu est souverain, puis il est l'autorité suprême sur tout ce qui existe. Et même, il est un bon Dieu qui veut prendre soin de nous, qui veut notre bien. Même s'il est le juge devant qui on va rendre compte, il nous a pourvu un sacrifice en Jésus-Christ dans lequel on peut être sans reproche. Mais maintenant, on doit s'efforcer d'être trouvé sans reproche devant lui. Et pour être trouvé sans reproche devant Dieu, ça implique quelque chose aussi. Ça implique que je dois aussi m'efforcer à être trouvé sans reproche devant les hommes, devant les autorités que Dieu a établies. Et on va regarder ensemble un passage dans Romains 13 où Paul va expliquer un peu plus en détail quelle est notre relation, la relation que les croyants devraient avoir avec les autorités. On va tourner ensemble dans Romains 13. Pour Paul, l'idée d'être irréprochable devant Dieu, ça voulait aussi dire d'être trouvé irréprochable devant les autorités humaines. Et même dans sa défense, dans Acte 24, on le voit, cherche à être trouvé sans reproche. Pourquoi? Dans Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, ce que Paul résume ici au verset 1, c'est les autorités qui sont là, que ce soit les parents que j'ai hérités à ma naissance, l'employeur pour qui je travaille, les gouvernements qui sont là, qui sont en place, il n'y en a aucune qui a été mise en place sans que ce soit Dieu qui l'ait mis là en place. Et donc, si je veux être soumis à Dieu, je dois être soumis aux autorités que Dieu a établies. Dieu est l'autorité suprême qui est souverain sur toutes choses et les autorités qui sont là dans nos vies, c'est Dieu qui les établit. Alors, être soumis à Dieu veut aussi dire d'être soumis aux autorités que Dieu a mises en place. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et dans n'importe quelle société, même les sociétés démocratiques, les autorités qui sont en place viennent de Dieu. Oui, on fait un choix, on fait un vote, on choisit. Mais ce n'est pas en dehors de la souveraineté de Dieu que les gouvernements sont mis en place. C'est dans la souveraineté de Dieu. Et à cause que Dieu est souverain, c'est lui qui a établi l'autorité. Et nous, les autorités, et nous voulons être soumis aux autorités parce qu'elles viennent de Dieu, l'autorité suprême. Dieu est souverain, puis toutes formes d'autorité sont établies dans sa souveraineté. Et ça implique, comme je l'ai mentionné, toutes les autorités que vous pouvez penser, être soumis à mon employeur. Ah, c'est parce qu'Alex, tu ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Hey, c'est un méchant, moi, etc. Celui que tu dis que Dieu a mis en place. Oui, c'est Dieu qui l'a mis en place. Puis oui, Dieu veut que tu sois soumis à ce patron-là. Hey, mais c'est parce que tu ne sais pas ce que tu me demandes, Alex. Là. C'est parce que tu ne le connais pas. Regarde, vous êtes toute la gang, là, je le sais, là, ceux qui ont un des patrons. Je comprends très bien ce que vous dites, parce que moi aussi, j'ai eu à être soumis à des patrons. Et je le suis encore. J'en ai 300 patrons ici. C'est une blague. C'est un peu vrai, mais je suis soumis au grand patron. Mais quand même, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Il y a des patrons qui ne sont pas faciles. Mais Dieu nous demande d'être soumis aux autorités parce que c'est lui qui les a établis. Alors, Seigneur, pourquoi tu as mis celui-là sur ma vie? Attends un peu. Bonne question. Elle va venir dans le troisième point plus tard. Mais le point, c'est pas facile. Puis on est dans un monde où c'est des autorités humaines, avec la nature pécheresse, tordues. Et on a juste à écouter la télévision un petit peu pour voir qu'il y a des dirigeants de certaines villes, de certaines compagnies qui sont tordus. Ils ne sont pas bien différents de nous lorsqu'on le réalise réellement. On est tordus, nous aussi. Mais le Seigneur nous demande d'être soumis. Puis ça se peut que ton prof qui t'enseigne à l'école, il ne l'a pas pantoute. Puis honnêtement, il ne gagne pas mon attention. Mais tu dois être soumis quand même. Puis le patron que Dieu a mis en place, puis ton père, ta mère. Oui, ça c'est l'autorité que Dieu a mis en place et tu dois y soumettre par amour pour Dieu et pour glorifier Dieu. Le verset 7 dans Romains 13 rajoute en disant « Rendez à tous ceux, à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Et il y a plusieurs choses qui sont incluses dans ce verset, l'impôt, le tribut, la crainte, l'honneur. Et on voit plusieurs formes d'autorité dans nos vies. Comme je disais, on a des parents, des employeurs auxquels on doit obéir et on doit leur faire honneur. On doit leur faire honneur parce que c'est Dieu qui les a placés, qui les a mis là dans nos vies. En faisant honneur à ceux qui sont en position d'autorité, on rend honneur à Dieu. Puis c'est ça que les chrétiens doivent comprendre dans sa relation avec les autorités, c'est que celles à qui je dois être soumis, même si elles sont injustes, c'est Dieu qui les a mis en place. Puis lorsque je rends honneur à ces autorités-là, je rends gloire à Dieu. Dieu a choisi des hommes imparfaits pour mettre en autorité sur nos vies et on doit être soumis. Est-ce que ça veut dire que je défendrai jamais ma cause puis je dois absolument toujours supporter les injustices? Je pense pas. Je pense qu'on est dans une société où on peut parler. Hein? S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ton employeur puis qu'il y a des affaires que tu n'apprécies pas, peut-être que tu lui en parles. Sauf que, admettons que tu lui en parles, mais il ne veut rien savoir. Comment j'agis là? Il ne veut rien savoir. J'y explique de quoi. Pour moi, ça ne fait pas de sens. La manière qu'il fonctionne, il devrait faire ça, ça, ça. J'y explique tout ça. Il ne veut rien savoir. Qu'est-ce que je fais? Je dois l'honorer. Mes parents me demandent de faire ça, ça. Moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Honore ton père et ta mère. C'est ce que Dieu demande. Et lorsqu'on est soumis à Dieu, on doit faire honneur à ceux qui sont en autorité. On peut parler. On peut essayer de discuter. Mais ultimement, tu pries que Dieu change le cœur de ton patron, tu peux prier que Dieu change le cœur de tes parents, mais peut-être que tu peux prier aussi, comme je disais tout à l'heure, Dieu change ton cœur pour être honoré, ceux que Dieu a placés dans ta vie comme autorité. Dans le récit du livre des Actes, on voit que les apôtres ont été souvent soumis à l'injustice au nom de l'Évangile. Des fausses accusations. J'ai fait le survol du livre des Actes, puis je regardais tous les moments où ils étaient placés en accusation. Fausse accusation, injustice. Et quelle était leur attitude dans tout ça? Ils cherchaient à défendre leur cause en étant irréprochables, en étant sans reproche devant les autorités. Fait que ça se peut que tu vives des injustices, mais tu peux défendre ta cause en étant sans reproche. C'est ce que les apôtres faisaient. Et leur but ultime, c'était quoi? C'est la proclamation de l'Évangile. Ils travaillaient à la proclamation de l'Évangile et nous aussi, on travaille à ça en tant que chrétiens. On veut finalement, notre but ultime, c'est que leur cœur soit touché par l'Évangile. Mais comment ça va arriver? Ça va arriver en étant sans reproche, en n'ayant pas de pas leur donner la permission de nous accuser et d'être trouvés reprochables. Si on annonce l'Évangile en disant que tous les hommes doivent être soumis à Dieu, puis que moi, je ne suis pas soumis à l'autorité, le message ne passe pas. Comprenez? Je ne suis même pas soumis moi-même à Dieu parce que je rejette l'autorité que Dieu a mis en place. Si je rejette l'autorité que Dieu a mis en place, après ça, j'annonce l'Évangile, que je dis que tous les hommes doivent être soumis à Dieu, de quoi tu parles? Hein? Ton témoignage, ce que tu me dis, ça ne marche pas. Si tu veux avoir un témoignage pour l'Évangile puis l'avancement de l'Évangile, on doit être soumis aux autorités et on doit manifester une attitude qui est soumise pour gagner leur cœur à l'Évangile. Et c'est ce que Paul et les autres apôtres ont fait tout au long du livre des Actes, malgré les fausses accusations. Leur but ultime, c'était de proclamer l'Évangile. Et même, on voit Paul, à toutes les fois dans sa défense, ou même Pierre, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Proclame l'Évangile à celui devant qui il se défend. Je suis en train de défendre l'Évangile, je vais te l'annoncer, mon ami. Et même, je pense, c'est Agrippa qui a dit à Paul, tu veux me persuader à devenir chrétien, là, hein? Ben oui, c'est ça mon but ultime, c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux. Parce qu'en étant soumis, puis en étant irréprochable, ce que je cherche, c'est gagner leur cœur. En étant soumis à Dieu, on veut honorer les autorités que Dieu a établies dans nos vies, parce qu'on est conscient que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et en étant soumis aux autorités, en acceptant de les honorer, on veut conduire tous les hommes, même ceux qui sont dans l'autorité, à être sans reproche, trouvés sans reproche devant Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, je vous invite à tourner aussi avec moi dans ce chapitre, 1 Timothée 2, je vais lire les versets 1 à 6. Et encore une fois, Paul, à travers sa lettre à Timothée, enseigne les chrétiens comment ils devraient agir envers les autorités. Le but ultime, comme Paul l'a fait tout au long de son ministère, qu'on voit dans le livre des Actes, c'était de les gagner à l'Évangile. 1 Timothée 2, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et dans le fond, ce que Dieu désire, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et même ceux qui sont en autorité, qui sont élevés en autorité, que Dieu a mis en place, Dieu veut sauver ces hommes et ces femmes. Parce que, finalement, ils ont été mis en autorité par Dieu. Mais ultimement, ils devront faire face un jour, eux aussi, à l'autorité suprême. Il y aura un jugement, une résurrection des justes et des injustes. Et les hommes et les femmes en autorité vont passer devant le tribunal de Dieu. Puis les injustices qu'ils auront commises pendant leur vie sur la terre, ils devront paraître devant Dieu avec ces injustices-là. Mais Dieu veut que tous soient sauvés. Quelle est mon attitude envers les autorités si Dieu veut que tous soient sauvés, que Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour qu'il soit le médiateur entre Dieu et les hommes? On veut que ces hommes et ces femmes-là aussi soient sauvés. Et dans mon attitude envers les autorités que Dieu a mis en place, je veux les honorer parce que ultimement, ce que je veux, c'est les conduire à l'Évangile pour qu'ils soient eux autres aussi trouvés sans reproche devant Dieu. Je m'efforçais d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et pourquoi Paul cherchait à faire ça? Parce qu'il reconnaissait l'autorité de Dieu. Il reconnaissait que cette l'autorité des hommes venait de Dieu. Mais il voulait gagner ces hommes et ces femmes-là à être sans reproche devant Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ton patron, ton prof, peut-être que tu as des parents, même non chrétiens. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et à travers ton attitude, tu peux être un témoignage de l'amour de Christ et de la soumission de Jésus-Christ et des apôtres à l'autorité dans le but qu'ils soient sauvés. Et puisque Christ a tout accompli pour nous, on veut conduire les hommes et les femmes à venir au pied de la croix et à recevoir l'Évangile. Et donc finalement, l'Évangile nous motive, c'est l'Évangile qui motive notre soumission aux autorités. Si je suis soumis aux autorités, je suis en train d'être un témoin de Jésus-Christ. Je suis en train d'être un témoin de l'autorité suprême de Dieu sur ma vie. Et ce que je désire, c'est être un témoin envers ces gens-là. Comment est-ce qu'on peut appeler les hommes à se soumettre à Dieu si nous-mêmes, on ne se soumet pas à leur autorité? On a besoin de vouloir gagner leur cœur à l'Évangile. Notre but, c'est de les gagner. Est-ce que vous êtes prêts à vivre pleinement pour le salut de tous les hommes, même pour vos patrons puis tous ceux qui sont en autorité, qui vous mènent la vie dure? Êtes-vous prêts, comme les apôtres, à suivre leur modèle, à dire, je vais te trouver sans reproche devant eux parce que je veux les gagner à l'Évangile, parce que Dieu aime tous les hommes puis il veut que tous les hommes soient sauvés? Notre mission, c'est ça. Alors, ça veut dire, oui, qu'on va subir des injustices. Mais Christ, c'est lui qui a subi la pire injustice. Mes enfants disent souvent, quand je prends une décision, « Oh, c'est pas juste! » Une fois, c'est spontanément, « Veux-tu me dire quelque chose qui n'est pas juste? Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, puis ça, c'était pas juste. » Je te fâche un peu. Mais c'est vrai. Si tu as envie de chialer, de dire, « C'est pas juste, regarde à Christ. Il a pris sur lui tes péchés. C'est-tu juste, ça? » Absolument pas. Mais il était prêt à le faire. Il l'a subi pour toi. Regarde à Christ et dis, Seigneur, tu as subi la pire injustice d'être abandonné de Dieu pour moi, pour mon salut. Je suis prêt à subir des injustices pour honorer ton nom puis manifester l'Évangile auprès de ceux qui sont en autorité au-dessus de moi. Ma montée, excusez-moi, mon expression ce matin. Mais c'est ça, notre désir, c'est de gagner les hommes, comme Dieu veut gagner tous les hommes à l'Évangile. Puisque Dieu veut les gagner, je dois être soumis, je dois les honorer. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années, il a été traduit en français, s'appelle « Pardonne-moi, Natacha ». Peut-être que vous l'avez déjà lu, les chrétiens qui sont de plus longue date, là, qui ont rencontré ce livre-là. Ça raconte l'histoire, c'est l'autobiographie d'un homme qui faisait partie de la police secrète russe au moment du communisme. Et un des mandats qu'ils avaient reçus du gouvernement, c'était d'entrer dans les maisons et de chercher les réunions de prière pour persécuter les chrétiens. Et puis, cet homme-là, qui faisait partie de la police secrète, a été un persécuteur de certains chrétiens. Et à un certain moment donné, il a rencontré une jeune femme, début vingtaine, qui était là en train de prier, puis il a assisté à une torture laquelle elle a subi. Et puis, il est resté troublé un peu de qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille-là. Et puis, elle était là dans la réunion de prière, puis elle a été persécutée. À un certain moment donné, alors qu'il était encore en train de trouver les réunions de prière, de vouloir persécuter des chrétiens, d'exécuter des injustices envers des chrétiens, il retombe encore sur cette fille-là, en train de prier dans la réunion de prière. Puis elle avait subi des persécutions, puis là, encore une fois, elle était prête à subir l'injustice, puis la persécution. Et là, ça arrive jusqu'à une troisième fois. Puis c'est arrivé, je pense que cette jeune fille-là est décédée. Et plus tard dans sa vie, ce souvenir-là de cette jeune femme-là qui était prête à subir les injustices pour l'Évangile, qui était sans reproche, mais dans un sens, vivait sa foi, est revenue à son cœur. Puis dans son livre, il écrit une lettre à Natacha. Il dit, « Par ton témoignage, Dieu est venu me rencontrer. Dieu est venu me rencontrer, puis aujourd'hui, peut-être que tu ne m'as pas pardonné, mais je sais que Dieu m'a pardonné. » Toutes les injustices que j'ai accomplies. Puis à cause de ton témoignage, il ne l'a jamais rencontré, ils ne se sont jamais revus, mais à cause de son témoignage, le Seigneur est allé chercher le cœur de cet homme-là, un persécuteur des chrétiens. Combien nous, devant les petites injustices qu'on peut vivre, on peut être des témoins de Jésus-Christ, puis troubler le cœur de nos patrons, troubler le cœur des gens qui sont autour de nous parce qu'on est prêt à être irréprochable devant eux et devant Dieu. J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Par notre soumission, on veut être trouvé sans reproche devant les hommes pour qu'eux se tournent vers Jésus-Christ, qui est le seul moyen de salut, pour qu'ils soient eux aussi, par la foi en lui, sans reproche devant Dieu. Et chaque jour, on doit vivre dans la soumission aux autorités que Dieu établit, mais ça demande des efforts. Comme Paul dit, je m'efforce à avoir une conscience sans reproche, je m'efforce constamment. Mais il faut reconnaître que Dieu est au contrôle, qui est souverain sur toute chose. Que c'est lui, finalement, à qui on obéit lorsqu'on obéit aux autorités. Probablement que la grâce de Dieu, que par la grâce de Dieu, on n'aura pas à vivre les mêmes injustices que les apôtres ou que cette jeune femme dont j'ai mentionné l'histoire. Par contre, sont tout de même pour nous des exemples. Et là, dans nos injustices, on doit être prêt à défendre nos intérêts, défendre nos droits, mais ultimement, ce qu'on recherche de plus, c'est de gagner les cœurs à l'Évangile. Par notre soumission, on veut être trouvé sans reproche devant Dieu et les hommes, afin que les hommes voient nos bonnes œuvres, fléchissent le genou devant l'autorité suprême, pour qu'eux aussi soient trouvés sans reproche. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Ah, Seigneur, c'est tellement un sujet, tellement loin de nos pensées, tellement loin de nos cœurs, de penser à être soumis à des autorités tordu, injuste. Mais Seigneur, tu nous as appelés premièrement à fléchir le genou devant toi, à reconnaître que tu es Dieu, que tu es l'autorité suprême. Et par Jésus-Christ, Seigneur, tu nous as montré ton amour. Par Jésus-Christ, tu nous as donné un modèle de quelqu'un qui a subi l'injustice pour nous, pour que nous aussi, on soit prêts dans notre cause, en défendant notre cause pour l'Évangile. Défendant le message qui sauve les hommes, qui peut contribuer au salut de tous les hommes. Tu nous appelles, Seigneur, à honorer ceux que tu as mis en place sur nos vies, sur les autorités que tu as placées sur nous, Seigneur. Aide-nous à les honorer dans nos paroles, dans nos actions, à fléchir le genou devant toi pour les prier pour eux, Seigneur. Tellement souvent, on manque de prier pour ceux. Nos gouvernements, ceux qui sont élevés en autorité. Mais tu veux que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Tu veux qu'eux aussi soient touchés par l'Évangile. Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour nous. On veut te célébrer, on veut te chanter, parce que tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la louange. Au nom de Jésus. Amen.